Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
Croire, espérer et aimer, la foi, l'espérance et l'amour.
Croire, espérer, aimer, ce sont des sentiments qui devraient nous habiter à chaque instant de nos vies. Nous sommes appelés à aimer. Aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais pour pouvoir aimer ainsi, nous devons aimer Dieu. Ce qui n'est pas toujours facile, car il est difficile d'aimer quelqu'un que l'on ne voit pas. Et nous devons aussi nous aimer nous-mêmes, ce qui souvent est une chose bien plus difficile encore, car nous avons tendance à regarder aux critères de la société et à aimer selon des codes décidés par des êtres bien pensants de ce monde. Du coup, l'amour, qu'il soit familial, amical, conjugal ou autre, est mis à mal. Il est ligoté, bâillonné. Nous aimons avec des sentiments conditionnés. Nous ne voyons plus l'autre tel qu'il est, nous le voyons tel que nous aimerions qu'il soit. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous aimions comme il nous a aimés. Il nous a aimés alors que nous étions coupables. Il a tendu la main sans avoir peur des décombres qui sont autour de nous, sans avoir peur des ténèbres de nos vies. Il nous a aimés de manière inconditionnelle. Et depuis que nous l'avons rencontré, avec lui, nous construisons nos vies. Avec lui, nous construisons notre histoire. Avec lui, nous avons retrouvé l'espoir et nous avons relevé la tête. Alors, nous aussi, nous voulons l'aimer en retour. Nous voulons croire encore et toujours en son amour. Et avec lui, nous voulons apprendre à nous aimer et à aimer les autres autour de nous tels qu'ils sont. Et la seule façon pour cela, c'est de regarder à la Bible, dans laquelle il est écrit que l'amour de Dieu est parfait, inconditionnel, fort, durable, fiable, fidèle, et que même les plus grandes eaux ne peuvent l'éteindre. L'amour de Dieu pour chacun de nous est bien plus profond et bien plus fort que ce qu'il nous est possible d'imaginer. Et pour nous le prouver, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et parce que nous voulons croire, espérer, aimer comme il nous a aimés, alors nous avons ce soir choisi de vous présenter ce Jésus, ce trésor qui fait partie de nos vies.
J'ai trouvé un trésor, avec toi je voudrais le partager. Bizarre d'offrir bien mieux que de l'or, mais quand même je vais t'indiquer où il est. J'ai trouvé un trésor, avec toi je voudrais le partager. Don't worry, c'est même pas de la triche, car mon diamant plus je le partage, plus je suis riche. Ce trésor tu le trouveras en regardant du côté d'une croix, où il y a quelques années de ça, Jésus a été crucifié pour toi et pour moi. Et même si tu te crois loin de lui, il suffira d'un mot pour que tu le vois. Car quand tu ne pensais plus à lui, ce Jésus pleurait, se battait pour toi. J'ai trouvé un trésor, avec toi je voudrais le partager. Bizarre d'offrir bien mieux que de l'or, mais quand même je vais t'indiquer où il est. J'ai trouvé un trésor, avec toi je voudrais le partager. Don't toi oui, c'est même pas de la triche. Car mon diamant, plus je le partage, plus je suis riche. Ce trésor, tu le trouveras en regardant du côté d'une croix. Où il y a quelques années de ça, Jésus a été crucifié pour toi et pour moi. Et même si tu te crois loin de lui, il suffira d'un mot pour que tu le vois. Car quand tu ne pensais plus à lui, ce Jésus pleurait, se battait pour toi. Jésus pleurait, se battait pour toi. J'ai trouvé un trésor, avec toi je voudrais le partager. Don't worry, c'est même pas de la triche. Car mon diamant, plus je le partage, plus je suis riche.
Après environ 3 ans de ministère, Jésus monta une dernière fois à Jérusalem avec ses disciples. Il y entra, monté sur le dos d'un ânon. Il y fut accueilli par une foule remplie de joie qui criait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» Béni soit le roi! Ils adressaient des louanges à Dieu pour tous les miracles que Jésus avait accomplis durant son ministère. Durant les jours qu'il passa à Jérusalem, Jésus enseigna tous les jours dans le temple. Il y chassa les marchands, refusant que le temple de Dieu ne devienne une caverne de voleurs. Les chefs du peuple, les prêtres, les spécialistes de la loi cherchaient à le faire mourir, car Jésus répandait tout autour de lui la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Il répandait la vérité et le peuple l'écoutait. Quand arriva le jour de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, Jésus envoya ses disciples préparer une table pour prendre un dernier repas ensemble. Le soir venu, au cours de ce souper, Jésus leur expliqua les événements qui allaient arriver, la trahison de l'un d'entre eux, le reniement d'un autre et l'abandon de tous. Puis Jésus prit une dernière fois la coupe avec eux. Après cela, ils sortirent tous ensemble pour se rendre sur le mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani. Arrivé là, Jésus dit à ses disciples « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis, il s'éloigna un petit peu pour prier seul. Il commençait déjà à être triste et effrayé. Alors, encore une fois, il s'adressa à ses disciples en leur disant « Veillez et priez avec moi », leur expliquant que son cœur était triste à mourir. Il alla encore une fois un peu plus loin, et puis il se jeta par terre. Soudain, sa voix rompit le silence de la nuit. Jésus, étreint d'angoisse, cria du plus profond de son cœur, « Père, s'il est possible que cette coupe passe près de moi sans que je la boive !» Ces paroles du Seigneur ébranlèrent les cieux, paralysant les anges, qui se demandèrent « Mais si Jésus ne le fait pas, qui le fera ? Tous les regards étaient fixés sur le Père, en attente d'une réponse. Soudain, Jésus reprit la parole. Un nouveau cri s'éleva, et il dit : Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Cette nuit-là, Jésus assura la rédemption de l'humanité. Il fortifia son être intérieur et prit le parti d'avancer jusqu'à la réussite de sa mission. Le sang qui perlait sur son front trahissait l'angoisse qui l'étreignait. Dans l'angoisse de la trahison, le sang de la rédemption avait pris naissance. Jésus avait déjà commencé à traverser les ténèbres de la souffrance et de la mort, et il fut très seul dans ces moments, car lorsqu'il revint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Alors Jésus les réveilla, il leur dit : Mais pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation.
Jésus et ses disciples parlaient encore lorsqu'arriva une foule dans laquelle se trouvaient des soldats, des gardes du temple, des chefs et des prêtres, et Judas Iscariote, l'un des 12, celui qui allait le trahir pour quelques pièces d'or et pour un baiser et par un baiser.
Un baiser ? C'est donc par un baiser que le disciple a trahi Jésus. Ce baiser qui était censé être celui d'un ami à un ami était le baiser de la trahison. Jésus fut donc arrêté et après un procès effectué de nuit et rapidement mené puisque la décision de le faire mourir était déjà prise, Jésus fut condamné. Ils l'amenèrent devant Pilate qui ne le trouva coupable d'aucun des actes dont il était accusé. Pilate tenta de lui sauver la vie. Il proposa que Jésus ne soit seulement fouetté et qu'il soit relâché. Mais la foule ne voulut pas. La foule se moquait de Jésus. La foule criait « À mort ! À mort !» La condamnation fut définitive. Il sera crucifié. C'était leur volonté. Alors commencèrent les plus longues heures de l'histoire de la création, durant lesquelles Jésus vécut les pires souffrances. Durant des heures, ses bourreaux l'ont frappé, de la plante des pieds jusqu'à la tête, de dos comme de face. Toutes les tortures possibles et imaginables lui furent imposées. Ils allèrent jusqu'à mettre sur sa tête une couronne d'épines qui est rentrée dans sa chair et qui a fini de blesser sa tête. C'est ainsi que tout son corps est devenu une seule plaie, rappelant les paroles du prophète Ésaïe qui avait dit « De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Son corps entier n'est que blessure, contusion et plaie vive, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. C'était comme si la furie de l'enfer s'était abattue sur le corps de Jésus. À cause du péché de l'humanité, à cause du péché de l'humanité, la maladie, la douleur et la mort sont entrées dans le monde. Alors, Dieu avait envoyé son Fils unique afin que celui-ci porte le châtiment de toute cette humanité rebelle et pécheresse. Après cela, Jésus fut conduit jusqu'au mont de Golgotha, appelé aussi le mont du Calvaire. Deux brigands y furent conduits avec lui. Chacun d'entre eux fut mis en croix de chaque côté, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
L'un des malfaiteurs suspendus en croix insultait Jésus en lui disant « N'es-tu pas le Messie, le Sauveur ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre brigand lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui, ce Jésus, il n'a rien fait de mal. » Et le brigand ajouta « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, quand tu viendras pour être roi. C'est la prière de ce brigand. Ce chant, c'est le chant de ce brigand qui a croisé Jésus sur ce chemin qui montait à Golgotha. Et sa vie n'a plus été la même après. Lorsque je t'ai vu sur le chemin, blessé, abandonné par les tiens. Lorsque j'ai senti ta souffrance contre toi, tourner tant de violence. Lorsque j'ai aperçu Golgotha, la croix que tu portais sur toi, alors j'ai compris l'injustice. La haine infligeait-elle un supplice? Lorsque a résonné le bruit des clous, un par un, preuve de l'amour qu'on bafoue, j'ai su que tu portais le courroux, qu'à ma place tu recevais les coups. Lorsque j'ai entendu ton pardon, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque j'ai croisé ton regard, j'ai compris qu'il n'était pas trop tard. Ô Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras pour être roi, ô Jésus, non, ne m'oublie pas. Tu sais combien j'ai besoin de toi. Lorsque j'ai cru en ta promesse d'un amour qui jamais ne délaisse, alors j'ai eu confiance en ta voix. Ce soir, je serai avec toi. Alors, j'ai eu confiance en ta voix. Ce soir,
je serai avec toi. Lorsque j'ai entendu ton cri, tout est accompli. La lumière a déchiré ma nuit. J'ai vu les ténèbres qui ont fui. Alors, après mon chemin de misère, j'ai connu le seul amour qui libère. Je suis devenu fils de roi, simplement parce que j'ai cru en toi. Je suis devenu fils de roi, simplement parce que j'ai cru en toi. Simplement parce que j'ai cru en toi.
Jésus était sur la croix. Il n'avait pas seulement été attaché comme les autres, il avait été cloué. Chaque respiration était pour lui une véritable agonie, car pour pouvoir respirer, il devait prendre appui sur les clous qui avaient traversé ses talons, ce qui entraînait une énorme douleur. À cette douleur s'ajoutait la fièvre, causée par l'infection de ses nombreuses blessures qui n'avaient pas été pansées ni soignées. Sa vie s'amenuisait peu à peu. Son sang coulait goutte à goutte sur la terre. Pourtant, malgré la souffrance, Jésus est resté des heures accroché au bois, s'assurant que l'œuvre dont il était chargé fut accomplie. Et alors que les soldats se partageaient ses vêtements, alors que les magistrats se moquaient de lui, Jésus continuait de prier. Il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lui qui fut méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Lui qui s'est abaissé pour que nous puissions respirer, pour que nous puissions nous relever, jusqu'à la fin, il a agonisé pour que nous puissions respirer et relever la tête. Jusqu'au bout de son agonie, Jésus continua de prendre soin des autres. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces deux brigands n'étaient pas là par hasard. Ils étaient là parce que Dieu voulait leur donner le choix de se repentir ou celui d'entrer dans la mort comme ils avaient vécu, sans foi ni loi. L'un a détourné le regard, n'osant pas s'adresser à Jésus, car sachant qu'il était injuste. Le deuxième a imploré son pardon. Parce qu'à ce moment-là, ce brigand a compris qui était Jésus. Il a su que Jésus était celui qui frappait à la porte et que son âme ne trouverait la paix qu'auprès de lui.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte. Tu cours jour après jour derrière tant de mirages. Tu recherches l'amour, tu survoles des images. Attiré, tu accours vers de sombres marécages. Alors, sans grand discours, écoute, j'ai pour toi un message. Moi, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi ton cœur. Tu pleures jour après jour sans pouvoir tourner la page. Tu attends du secours, tu es prise en otage. Le monde entier est sourd aux larmes de ton orage. Alors, sans grand discours, écoute, j'ai pour toi un message. Moi, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi ton cœur. Tu ris jour après jour derrière ton maquillage. Fais de longs détours, tu fausses tes voyages. L'apparence toujours aveuglant témoignage. Alors, sans grand discours, écoute, j'ai pour toi un message. Moi, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi ton cœur. Moi, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le brigand sur la croix avait entendu la voix de Jésus. Il a entendu sa voix et il lui a ouvert son cœur. Malgré la souffrance, malgré la peur, malgré la moquerie des autres, il lui a ouvert son cœur car il a entendu la voix de Jésus. La voix de celui qui, au seuil de la mort, était capable de pardonner encore et toujours. Pardonner à cet ami qui l'avait trahi par un baiser. De pardonner à ses agresseurs, à ses bourreaux, à ceux qui s'étaient moqués de lui. Il avait pardonné à ce brigand qui lui l'avait demandé. Le brigand avait entendu la voix de celui qui était le seul capable de donner sa vie pour sauver des milliers et des milliers de personnes. Il avait entendu la voix de celui qui, aujourd'hui encore, nous appelle à venir et à voir.
Je le sais bien, ce que je pourrais faire ne suffirait jamais à effacer tous ces péchés, ma misère d'hier, sombre moment que j'aimerais cacher. Je le sais bien, trop immense est la tâche pour que j'acquitte la vraie liberté. Mais j'entends ta voix qui me dit sans relâche, viens à la croix, pour toi j'ai tout payé. Mais j'entends ta voix qui me dit sans relâche, vois à la croix, pour toi j'ai tout payé. Je le sais bien, mes mots sont trop fragiles, mes intentions couvertes de faiblesse. Je connais bien les doutes qui se faufilent, les jours de pluie lorsque les bras se baissent. Mais au moment où les forces me lâchent, lors du voyage rempli de dangers, j'entends ta voix qui me dit sans relâche, viens à la croix, pour toi j'ai tout payé. J'entends ta voix qui me dit sans relâche, vois à la croix, pour toi j'ai tout payé. Je le sais bien, toi tu seras toujours là, car ton amour ne dépend pas de moi. Je le sais, je ne t'aurais jamais cherché si toi, Jésus, tu ne m'avais trouvé. Alors heureux de laisser ce qui m'attache, heureux de courir vers la liberté. Je cède à ta voix qui me dit sans relâche, viens à la croix, pour toi j'ai tout payé. Je cède à ta voix qui me dit sans relâche, vois à la croix, pour toi j'ai tout payé. Heureux de laisser ce qui m'attache, heureux de courir vers la liberté. Je cède à ta voix qui me dit sans relâche, viens à la croix, pour toi j'ai tout payé. Je cède à ta voix qui me dit sans relâche, vois à la croix, pour toi j'ai tout payé.
Brigand avait entendu la voix de celui qui à la croix a tout payé pour lui. Il avait reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il avait été touché par tant d'amour. Alors, comme on lance une bouteille à la mer, il a osé interpeller Jésus pour lui demander de penser à lui lorsqu'il sera dans son royaume. Le brigand a lancé une bouteille à la mer pour Jésus et il a obtenu directement une réponse. Combien de bouteilles contenant un message avons-nous au cours de notre vie lancées à la mer, que ce soit au sens propre ou au sens figuré? Combien de temps, combien de kilomètres ont-elles parcouru avant qu'elles ne tombent entre les mains d'une personne bien intentionnée ou mal intentionnée? Quelles sont les bouteilles que nous avons confiées à la mer? Depuis combien de temps? Il y a de nombreuses années, sur une plage de Bretagne, j'ai jeté une bouteille à la mer. J'étais désespérée, je rêvais du grand amour et j'avais lu un livre où la personne, l'héroïne, lançait une bouteille à la mer et elle trouvait le grand amour. Alors j'ai lancé une bouteille à la mer. J'y ai cru, j'ai attendu. La bouteille n'est jamais revenue, le grand amour non plus. En tout cas, il n'est pas venu de manière humaine. Mais quelque temps plus tard, j'ai rencontré Dieu et son Fils, Jésus. Quelles sont les bouteilles que vous avez jetées à la mer? Est-ce que vous aussi vous attendez un mari, une épouse ou un enfant depuis bien trop longtemps et vous êtes désespéré? Attendez-vous la guérison d'une maladie incurable, un changement de vie, un changement d'orientation? Quelles sont les bouteilles que vous avez lancées à la mer? Aujourd'hui, il ne s'agit plus de lancer des bouteilles à la mer. Il s'agit d'entendre la voix de celui qui est passé par le chemin de la croix, par amour pour nous. Au cœur de notre existence, nous pouvons traverser des souffrances difficiles qui vont nous ravager, qui vont nous coucher par terre. Mais aucune de ces souffrances, le Christ ne pourra... Aucune de ces souffrances ne pourra être supportée par le Christ. Toutes, il les a vaincues à la croix. Alors, aujourd'hui, Dieu nous donne le choix, comme il l'a donné aux deux brigands, celui de suivre Jésus ou de passer notre chemin. Qu'allons-nous faire? Allons-nous, nous aussi, nous tourner vers Jésus et vers cette croix sur laquelle il fut crucifié? Ou allons-nous le reconnaître comme étant le Fils de Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur? Ou bien allons-nous passer notre chemin et continuer notre route loin de lui? Ou bien juste à la périphérie, afin d'avoir le bon côté, mais pas le mauvais, pas les contraintes? Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il nous donne l'opportunité de nous incliner et de déposer au pied de la croix tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous ligote. Jésus a déjà payé pour nous. Alors, aujourd'hui, nous pouvons faire comme le brigand, nous pouvons nous incliner avec humilité devant le Christ et nous pouvons demander pardon. Aujourd'hui, nous pouvons aller déposer au pied de la croix le ou les messages que nous gardons depuis si longtemps et qui pèsent aussi lourd dans nos vies. Nous pouvons laisser l'Esprit de Dieu toucher nos êtres et les transformer.
Jésus, touche-moi. Jésus, dis un mot. Jésus, touche-moi, dis un mot, et je serai guéri. Ma vie, mes blessures et mes faiblesses. Touche-moi, dis un mot et je serai guéri. Car c'est par ton sang que nous avons la vie, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est par ton sang que nous avons la vie, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Blessures et ses faiblesses, touche-le, dis un mot et il sera guéri. Car c'est par ton sang que nous avons la vie, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est par ton sang que nous avons la vie, par tes meurtrissures, nous sommes guéris.
yeux. Tu vois ce monde, ses blessures et ses faiblesses. Touche-le, dis un mot et il sera guéri. Car c'est par ton sang que nous avons la vie. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est par ton sang que nous avons la vie. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est par ton sang que nous avons la vie. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris.
Le disciple Jean était le seul des apôtres qui se trouvait au pied de la croix. Les autres disciples, les hommes, avaient fui. Ils avaient fui afin que puisse s'accomplir la parole des prophètes. Alors, tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Pierre ira même jusqu'à le renier 3 fois. Pourtant, leurs noms sont aussi gravés sur ses mains. Jésus a tout pris par ses meurtrissures et la puissance de son pardon a tout balayé. La puissance du pardon de Jésus a balayé les ravages que la vie a causés aux hommes. Il a asséché les eaux qui ont inondé vos vies. Il a balayé et effacé toutes les fois où quelqu'un vous a dit que vous étiez un bon à rien ou un incapable. Toutes les fois où vous avez été renié par une parole, par un baiser, comme Jésus le fut par ses disciples. Jésus, par son sacrifice, a nettoyé et purifié tout ce qui vous tenait prisonnier en tant qu'homme, tout ce qui vous empêchait de prendre vos rôles de fils, d'époux, de frère, de collègue, de père, d'ami, d'homme. Et comme une mère n'oublierait jamais son enfant, Jésus n'oublierait et n'oubliera jamais les hommes. Vous êtes des bâtisseurs, les hommes sont les bâtisseurs de ce monde. Quelqu'un a écrit que les hommes sont la force de Dieu. Dieu veut restaurer les hommes dans leurs identités. Il veut vous restaurer ce soir. Il veut que les hommes n'aient plus peur et que vous vous approchiez de celui qui aujourd'hui vous appelle à revenir à lui.
Il y a ce que l'on m'a dit sur toi, si faux, parfois tes absences face au désarroi. Tu sais pourquoi des gens racontent que tu déçois, que tu es froid. Mais quand je regarde ta croix, alors je réalise. Je suis quelqu'un qui compte pour toi, même si je l'oublie quelquefois. Même si j'abandonne ta main, tu éclaires toujours mon chemin. Je suis quelqu'un qui compte pour toi et je sais que je peux compter sur toi. Il y
y a ce que j'ai mal compris. A priori, ma confiance qui faiblit la nuit, la paix qui fuit ta parole que d'autres injurient avec mépris. Mais lorsque Jésus me sourit, alors je réalise. Quelqu'un qui compte pour toi, même si je l'oublie quelquefois, même si j'abandonne ta main, tu éclaires toujours mon chemin. Je suis quelqu'un qui compte pour toi et je sais que je peux compter sur toi. Tout ce dont je t'accuse quand je refuse mes fausses routes, mes faibles ruses, bien trop confuses, mes tricheries, vaines excuses que je récuse, mais ton amour jamais ne s'use. Alors je réalise. Quelqu'un qui compte pour toi, même si je l'oublie quelquefois, même si j'abandonne ta main, tu éclaires toujours mon chemin. Je suis quelqu'un qui compte pour toi et je sais que je peux compter sur toi. Je suis quelqu'un qui compte pour toi, même si je l'oublie quelquefois, même si j'abandonne ta main, tu éclaires toujours mon chemin. Je suis quelqu'un qui compte pour toi et je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi. Je suis quelqu'un qui compte pour toi et je sais que je peux compter sur toi.
Saint-Exupéry a écrit « Nous sommes responsables pour toujours de ce que nous avons apprivoisé. » Ce jour-là, au pied de la croix, parmi la foule, se tenaient les femmes. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, et parmi elles, Marie, la maman de Jésus. Jésus, Marie, les femmes et les disciples étaient très proches les uns les autres. Durant les 3 ans du ministère de Jésus, ils l'ont suivi, accompagné, écouté. Les femmes ont vécu ces 3 ans auprès de Jésus et de ses disciples, s'apprivoisant et se soutenant les uns les autres dans ce qu'ils vivaient, ce qu'ils apprenaient et dans l'épreuve qu'ils allaient traverser encore. Il avait été annoncé qu'une épée transpercerait l'âme de Marie, et ce fut le cas ce jour-là. La mort de son fils bien-aimé brisa l'âme et le cœur de cette mère qui était impuissante à faire quoi que ce soit pour sauver son fils. Jésus, la voyant au pied de sa croix, pliée de douleur, et voyant auprès d'elle le disciple Jean, il lui dit « Femme, voici ton fils ». Et il dit aux disciples, « Fils, voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple accueillit Marie chez lui et il prit soin d'elle chaque jour, comme on prend soin d'une maman. L'un et l'autre n'avaient plus rien à craindre désormais. Plus aucun des deux ne serait orphelin. Jésus y avait veillé. Durant 3 ans, Jésus a veillé sur ses disciples et il a veillé sur les femmes qui l'entouraient. Les jeunes filles, les femmes d'âge mûr, les veuves, il a veillé sur les femmes. Il a pris soin de toutes ces femmes. Et aujourd'hui encore, Jésus vous appelle, vous les femmes. Vous en avez fini de porter le deuil des blessures. C'est terminé. Jésus vous appelle au pied de sa croix parce qu'il veut veiller sur vous. Quel que soit l'âge que vous avez, que vous soyez célibataire, marié, veuve, peu importe, pour Jésus, vous êtes des femmes, il vous aime, il vous appelle encore aujourd'hui.
Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? Et bien même à supposer qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Alors ne crains rien. Tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien, ne crains rien, même si la tempête fait rage, ma fidélité traverse les âges, alors ne crains rien. Ne crains rien, mon amour pour toi est éternel. Jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien. Ne crains rien, car j'ai donné ma vie pour toi. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains.
Durant 3 ans, Jésus a éclairé la vie de ceux qu'il a rencontrés. Il était la lumière venue pour les guider sur le chemin. Mais ce jour-là, le jour où il fut cloué au bois sur le mont de Golgotha, lorsque la 6e heure arriva, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le ciel s'assombrit de chagrin. Le soleil se cacha la face pour ne plus voir ce drame qui se jouait sur la terre. Le plus grand drame qui eut lieu dans toute l'histoire, pas seulement l'histoire de l'humanité, mais aussi toute l'histoire de la création. Quand arriva la 9e heure, Jésus était toujours pendu au bois de la croix. Il s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu ! Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il vivait là le plus grand sentiment d'abandon qui puisse exister. Pourtant, il continua et il dit « Tout est accompli. » Avant de pousser son dernier soupir, il remit son esprit entre les mains de son Père. C'est au Père que se porte la dernière parole de Jésus, comme elle fut la première qu'il prononça dans le temple lorsqu'il dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» La boucle était bouclée. Jésus avait accompli sa mission. Le voile du temple se déchira en deux. La création entière trembla d'effroi devant ce drame. Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était innocent, venait d'être crucifié. Après cela, Joseph d'Arimathée, un homme juste et bon, alla voir Pilate afin de lui réclamer le corps de Jésus. Ayant reçu la permission, il descendit le corps de Jésus de la croix. Il l'enveloppa dans un drap de lin, auquel, selon les coutumes juives, il ajouta un mélange d'aromates. Puis il déposa le corps dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. Il roula une grosse pierre afin d'en fermer l'entrée. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restées à distance. Elles regardaient ce qui se passait. Elles virent le tombeau, la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et comment la pierre fut roulée afin de le fermer. La foule resta là encore quelques instants, hagard, hébété, ne comprenant pas réellement ce qui s'était passé. Ce Jésus était né pour être le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. Pourtant, ce jour-là, il venait d'être mis au tombeau. Mais c'était le jour de la préparation du sabbat. Celui-ci allait commencer. Alors, la foule se dispersa afin de s'y préparer. À ce moment-là, plus que jamais, la seule chose qui demeura chez cette foule qui avait suivi Jésus, ce fut l'amour, parce que l'amour est définitivement le plus grand.
Tu as entendu ma prière, ma prière faite dans le noir. Je ne m'amusais plus au fier. Quand j'ai dit « Tu es mon espoir », quand j'ai appelé ta lumière au secours de mon destin noir, je t'ai donné tous mes hivers, tu as transformé mon histoire. Tu es Jésus, Jésus. Tu as effacé mon péché en payant le poids de mes fautes. Et lorsque ton sang a coulé, comment garder la tête haute? Immense amour, tu as pardonné, me proposant d'être ton hôte, de suivre sur les trois sentiers, et que l'on marche côte à côte. Tu es Jésus, Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés, la bonne nouvelle, ils seront consolés. Tu es Jésus, oh Jésus. Tu as guéri mon cœur brisé, tu as soigné mes meurtrissures, tu as pansé toutes mes plaies, calmé mes peurs, détruit ces murs. Maintenant partout je dirai,
je chanterai cette aventure. Le monde saura qui tu es, toi le rocher de mon futur. Tu es Jésus, Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés, la bonne nouvelle, ils seront consolés. Tu es Jésus, oh Jésus, la bonne nouvelle pour les prisonniers, la bonne nouvelle, car leurs chaînes vont tomber. Tu es Jésus, oh Jésus.
L'histoire est terminée pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce chemin. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche pour la suite. En attendant que l'amour de celui qui a été crucifié pour vous, vous porte encore.